Ernest Renan, ma sœur Henriette. La mémoire des hommes n'est qu'un imperceptible trait du sillon que chacun de nous laisse au sein de l'infini. Elle n'est cependant pas chose vaine. La conscience de l'humanité est la plus haute image réfléchie que nous connaissions de la conscience totale de l'univers. L'estime d'un seul homme est une partie de la justice absolue. Aussi, quoique les belles vies n'aient pas besoin d'un autre souvenir que de celui de Dieu, on a toujours cherché à fixer leur image. Je serais d'autant plus coupable de ne pas rendre ce devoir à ma sœur Henriette que seule j'ai pu connaître les trésors de cette âme élue. Sa timidité, sa réserve, cette pensée chez elle arrêtée qu'une femme doit vivre cachée, étendirent sur ses rares qualités un voile que bien peu soulevèrent. Sa vie n'a été qu'une suite d'actes de dévouement destinés à rester ignorés. Je ne trahirai pas son secret. Mais ceux qui ont été du petit nombre à qui elle se révéla me ferait un reproche si je ne cherchais à mettre par ordre ce qui peut compléter leurs souvenirs. Chapitre 1er. Ma sœur Henriette naquit à Tréguier le 22 juillet 1811. Sa vie fut de bonheur attristée et remplie d'austères devoirs. Elle ne connut jamais d'autre joie que celle que donne la vertu et des affections du cœur. Elle tenait de notre père une disposition mélancolique qui lui laissait peu de goût pour les distractions vulgaires et lui inspirait même une certaine disposition à fuir le monde et ses plaisirs. Elle n'avait rien de la nature vive, gaie, spirituelle que ma mère a conservée dans sa belle et forte vieillesse. Ses sentiments religieux, d'abord renfermés dans les formules du catholicisme, furent toujours très profonds. Tréguier, la petite ville où nous sommes nés, est une ancienne ville épiscopale, riche en poétiques impressions. Ce fut une de ces grandes cités monastiques, à la façon galloise et irlandaise, fondée par les émigrés bretons du VIe siècle. Elle eut pour père un abbé Tual ou Tugdual. Quand nommé Noé au IXe siècle, voulant fonder une nationalité bretonne, transforma en évêché tous ces grands monastères de la côte du Nord, le monastère de Saint-Tual fut du nombre. Au XVIe et au XVIIe siècle, Tréguier devint un centre ecclésiastique assez considérable et le rendez-vous d'une petite noblesse locale. À la Révolution, l'évêché fut supprimé, mais après le rétablissement du culte catholique, les vastes constructions que la ville possédait en refirent un centre ecclésiastique, une ville de couvents et d'établissements religieux. La vie bourgeoise s'y est peu développée. Les rues, sauf une ou deux, sont de longues allées désertes formées par des hauts murs de couvents ou par d'anciennes maisons canoniales entourées de jardins. Un air général de distinction perce partout et donne à cette pauvre ville morte un charme que n'ont pas les villes de bourgeoisie plus vivantes et plus riches qui se sont développées dans le reste du pays. La cathédrale, surtout, très bel édifice du XIVe siècle, avec ses nefs élevées, ses étonnantes hardiesses d'architecture, son joli clocher prodigieusement élancé, sa vieille tour romane, reste d'un édifice plus ancien, semblait faite exprès pour nourrir de hautes pensées. Le soir, on la laissait ouverte fort tard aux prières des personnes pieuses. Éclairée d'une seule lampe, remplie de cette atmosphère humide et tiède qu'entretiennent les vieux édifices, l'énorme vaisseau vide était plein d'infini et de terreur. Les environs de la ville sont riches en belles ou étranges légendes. À un quart de lieue est la chapelle élevée près du lieu de naissance du bon avocat Saint-Yves, le saint des Bretons du dernier âge, devenu dans la croyance populaire le défenseur des faibles, le grand redresseur de tort. Près de là, sur un point fort élevé, la vieille église de Saint-Michel détruite par la foudre. On nous y menait chaque année le jeudi saint. C'est une croyance que ce jour-là, toutes les cloches, pendant le grand silence qui leur est imposé, vont à Rome demander la bénédiction du pape. Pour les voir passer, on montait sur le tertre couvert de ruines. On fermait les yeux et on les voyait traverser l'air, doucement inclinés, laissant flotter mollement derrière elles leur robe de dentelle, celle-là même qu'elles portèrent le jour de leur baptême. Un peu plus loin s'élève la petite chapelle des Cinq Plaies, dans une charmante vallée. De l'autre côté de la rivière, près d'une ancienne fontaine sacrée, Notre-Dame du Trômeur, pèlerinage très vénéré. Une forte disposition pour la vie intérieure fut chez ma sœur le résultat d'une enfance passée dans ce lieu plein de poésie et de douce tristesse. Quelques vieilles religieuses, chassées de leur couvent par la Révolution et devenues maîtresses d'école, lui apprirent à lire et à réciter les psaumes en latin. Elle apprit par cœur tout ce qu'on chante à l'église. Sa réflexion, s'exerçant plus tard sur ces vieux textes, qu'elle comparait au français et à l'italien, l'avait amenée à savoir beaucoup de latin, quoiqu'elle ne l'eût pas régulièrement appris. Son éducation, néanmoins, serait restée forcément très incomplète, sans une heureuse fortune qui lui donna une institutrice supérieure à toutes celles que le pays avait eues jusque-là. Les familles nobles de Tréguier étaient revenues de l'émigration complètement ruinées. Une demoiselle appartenant à l'une de ces familles, dont l'éducation s'était faite en Angleterre, se mit à donner des leçons. C'était une personne distinguée par le goût et les manières. Elle laissa chez ma sœur une trace profonde et un souvenir qui ne s'effaça point. Les malheurs dont elle fut de bonne heure entourée augmentèrent cette tendance à la concentration qui était innée chez elle. Notre grand-père, par le côté paternel, appartenait à une sorte de clan de marins et de paysans qui peuple tout le pays de Goëlo. Il fit une petite fortune avec sa barque et vint s'établir à Tréguier. Notre père servit sur les flottes de la République. Après les désastres maritimes du temps, il commanda des navires pour son compte et se laissa peu à peu entraîner à un commerce considérable. Ce fut une grande faute. Complètement inhabile aux affaires, simple et incapable de calcul, sans cesse arrêté par cette timidité qui fait du marin un véritable enfant dans la pratique de la vie, il vit la petite fortune qu'il tenait de sa famille se fondre peu à peu dans un gouffre qu'il ne mesurait pas. Les événements de 1815 amenèrent des crises commerciales qui lui furent fatales. Sa nature sentimentale et faible ne tenait pas contre ses épreuves. Il retirait peu à peu son enjeu de la vie. Ma sœur assista heure par heure aux ravages que l'inquiétude et le malheur exerçaient sur cette âme douce et bonne, égarée dans un genre d'occupation qui n'était pas le sien. Elle acquit dans ses rudes expériences une précoce maturité. Dès l'âge de 12 ans, c'était une personne sérieuse, fatiguée de soucis, obsédée de pensées graves et de sombres pressentiments. Au retour d'un de ces longs voyages dans nos mers froides et tristes, mon père eut un dernier rayon de joie. Je naquis en février 1823. La venue de ce petit frère fut pour ma sœur une grande consolation. Elle s'attacha à moi de toute la force d'un cœur timide et tendre qui a besoin d'aimer. Je me rappelle encore les petites tyrannies que j'exerçais sur elle et contre lesquelles elle ne se révolta jamais. Quand elle sortait, parée pour aller aux réunions des demoiselles de son âge, je m'attachais à sa robe, je la suppliais de revenir. Alors elle rentrait, tirait ses habits de fête et restait avec moi. Un jour, par plaisanterie, elle me menaça, si je n'étais point sage, de mourir. Et elle fit la morte, en effet, sur un fauteuil. L'horreur que me causa l'immobilité feinte de mon amie est peut-être l'impression la plus forte que j'ai éprouvée, le sort n'ayant pas voulu que j'aie assisté à son dernier soupir. Hors de moi, je m'élançai et lui fis au bras une terrible morsure. Elle poussa un cri que j'entends encore. Aux reproches que l'on m'adressait, je ne savais répondre qu'une chose. « Pourquoi donc es-tu morte? Est-ce que tu mourras encore ?» En juillet 1828, les malheurs de notre père aboutirent à une affreuse catastrophe. Un jour, son navire venant de Saint-Malo rentra au port de Tréguier sans lui. Les hommes de l'équipage, interrogés, déclarèrent que depuis plusieurs jours, il ne l'avait plus revu. Un mois entier, ma mère le chercha avec d'inexprimables angoisses. Enfin, elle apprit qu'un cadavre avait été trouvé sur la côte d'Erquy, village situé entre Saint-Brieuc et le Cap Fréhel. Il fut constaté que c'était celui de notre père. Quelle fut la cause de sa mort? Fut-il surpris par un de ces accidents si communs dans la vie de l'homme de mer? S'oublia-t-il dans un de ces longs rêves d'infini qui, chez les races bretonnes, confinent au sommeil sans fin? Crut-il avoir mérité le repos? Trouvant qu'il avait assez lutté, s'assit-il sur le rocher en disant « Celle-ci sera la pierre de mon repos pour l'éternité. Ici je reposerai, car je l'ai choisi. » Nous ne le savons pas. On le déposa dans le sable, où, deux fois par jour, les flots viennent le visiter. Je n'ai pas encore pu élever là une pierre pour dire aux passants ce que je lui dois. La douleur de ma sœur fut profonde. Elle tenait sa nature de notre père. Elle l'aimait tendrement. Chaque fois qu'elle en parlait, c'était avec des larmes. Elle était persuadée que son âme, si éprouvée, fut toujours juste et pure aux yeux de Dieu.